Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur trois sujets d'actualité africaine, tirés d'articles d'Africa Press.
Oui, trois points chauds.
Exactement. On va parler d'abord de la nouvelle stratégie du Burkina Faso pour ses mines d'or. Est-ce qu'il copie de Mali ou c'est autre chose? Ensuite, le défi immense des langues locales en Afrique, plus de 2000, face à la mondialisation et au numérique.
Un enjeu culturel majeur, oui.
Et pour finir, un coup d'œil sur la RDC. Il y a des soupçons de détournement. Pas mal d'argent, 20 millions de dollars pour un projet de prison.
Alors, l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça, de voir ce qu'il y a derrière. Souveraineté économique, identité, gouvernance, les grands thèmes, quoi.
Commençons par le Burkina Faso, alors. Cette volonté de reprendre le contrôle de l'or, il y a eu un décret important en avril 2025.
Oui, un décret qui change pas mal les règles du jeu.
L'État et les investisseurs locaux burkinabés peuvent maintenant avoir jusqu'à 45% des parts des sociétés minières.
C'est ça. 15% gratuit pour l'État, comme avant mais en plus élevé, et 30% de plus si des locaux s'associent.
C'est beaucoup plus que les 10% habituels que l'État recevait gratuitement.
Tout à fait. Et ça, ça fait penser à ce qu'a fait le Mali en 2023. Eux, ils ont poussé la part de l'État jusqu'à 35%.
Et au Mali, ça a déjà donné des résultats?
Apparemment, oui. Ils ont pu renégocier des contrats. On parle de presque 846 millions de dollars de taxes zéro devance en 2024. Donc, le Burkina pourrait vouloir faire pareil. L'objectif semble clair, plus de contrôle national et que l'argent de l'or profite plus aux Burkinabés. Mais est-ce que c'est si simple? Il doit y avoir des obstacles.
Ah ben oui, plusieurs. D'abord, les compagnies minières, West African Resources, Horizon, Endeavor. Elles ne vont peut-être pas se laisser faire.
Elles pourraient dire que leurs contrats sont protégés.
Exactement, invoquer des conventions minières signées avant. Et puis il y a le coût. Racheter ces 30% supplémentaires, ça coûte de l'argent.
C'est pas gratuit?
Non.
Et ça demande aussi des capacités techniques, de gestion. C'est un pari. Mais ça s'inscrit dans une tendance, ce qu'on appelle le nationalisme des ressources. Les États veulent leur part du gâteau.
Intéressant. Et ce besoin de contrôle, on le retrouve aussi sur un autre terrain, celui des langues. L'Afrique, c'est une mosaïque linguistique incroyable. Plus de 2000 langues.
Une richesse phénoménale, oui. C'est l'identité même de beaucoup de peuples.
Mais voilà, le paradoxe, c'est que les langues coloniales, comme le français ou l'anglais, dominent souvent. Surtout dans l'administration, l'économie et sur Internet. Et le numérique, c'est vraiment le défi actuel. Un doctorant, Hamdi Mustapha Dramé, le souligne bien, il faut que ces langues s'adaptent à la technologie pour survivre. Comment on fait ça concrètement?
Il faut créer des outils, des claviers, des correcteurs, et surtout du contenu.
C'est un travail énorme.
Certaines langues s'en sortent mieux, comme le Swahili ou le Wolof. On les voit émerger en ligne. Mais pour beaucoup d'autres...
C'est un long chemin. Mais il y a quand même des signes d'espoir, non? On voit des initiatives.
Oui, heureusement. On commence à les introduire un peu plus dans l'éducation. On voit du contenu numérique local apparaître. Et puis, politiquement, il y a une volonté.
Comme dans les pays de l'Alliance des États du Sahel?
Oui, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, disait que les langues nationales regagnaient du terrain sur le français. C'est un symbole fort de réaffirmation.
Au fond, c'est une question de survie culturelle.
Absolument. Mais c'est aussi un levier de développement potentiel. Si les gens accèdent à l'info, à l'éducation dans leur langue, ça change tout. C'est un enjeu de souveraineté aussi, finalement.
Passons au dernier sujet, en RDC. Une affaire qui fait du bruit, soulevée par un député, Willy Mishiki.
Oui, une alerte sur un contrat de construction de prison à Kisangani. Un gros contrat, 29 millions de dollars.
Et le problème, c'est qu'il y aurait près de 20 millions qui seraient potentiellement détournés.
C'est ce que suggère l'alerte, qui se base sur une note de la CNRF, la cellule anti-blanchiment, disons.
Et qu'est-ce qu'elle dit, cette note, en gros?
Elle pointerait des irrégularités. Le contrat n'aurait pas eu toutes les validations nécessaires. Et l'entreprise choisie, elle serait toute nouvelle, créée très récemment. Ça interpelle.
D'accord. Et où en est l'argent?
Alors, apparemment, une grosse partie, près de 19 millions, a été virée. Mais l'argent est maintenant bloqué. Sur un compte séquestre, c'est-à-dire un compte spécial, en attendant que l'affaire soit tirée au clair.
Le ministre de la Justice, lui, Constant Mutamba, il défend le projet. Il dit que cette prison est nécessaire, qu'elle va désengorger les autres. 3000 places prévues.
Oui, il insiste sur l'utilité du projet et affirme que les fonds sont sécurisés. Mais bon, l'affaire est remontée jusqu'à la première ministre, Judith Suminois. C'est sur son bureau.
Donc c'est à suivre de près.
Tout à fait. C'est un dossier test pour la nouvelle équipe au pouvoir. si les soupçons se confirment, ça entacherait les efforts affichés de bonne gouvernance. Ça montre bien les défis de la transparence dans la gestion de l'argent public en RDC.
Bon, si on résume, on a vu aujourd'hui le Burkina qui cherche à maîtriser son or, la bataille des langues africaines pour exister à l'ère numérique, et ces questions de gouvernance en RDC.
Voilà, trois contextes différents, mais on retrouve des fils rouges. L'affirmation de la souveraineté, économique ou culturelle, la tension entre, disons, l'héritage et le besoin de s'adapter à la modernité.
Et puis cet impératif de transparence dans la gestion publique.
Exactement, c'est crucial partout.
Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Au-delà des décrets, des alertes, des initiatives, comment est-ce que tout ça, ces efforts pour reprendre le contrôle, que ce soit sur l'or, la langue ou les finances, va vraiment changer les choses, concrètement pour les gens sur place?
C'est la question essentielle, en effet. L'impact réel sur l'avenir et le quotidien des populations. Une réflexion à poursuivre.